Bonjour. Un film qui ridiculise une des toutes premières fortunes françaises, puissant patron de presse et par ailleurs tout puissant annonceur même des médias qui ne possèdent pas. Eh bien oui, c'est possible. C'est en France et ça sort le 24 février. Alors le film s'appelle Merci Patron et à l'heure où nous enregistrons cette émission, il a déjà été vu un peu partout en France dans des avant-premières dans une quarantaine de villes. Alors de cet ovni cinématographique, nous allons parler dans cette émission avec son auteur et principal interprète, François Ruffin, par ailleurs lui-même patron du puissant journal Fakir, comme on le verra, du groupe Fakir peut-être même. Et au-delà de la jubilation et de la franche rigolade que suscite votre film, on se demandera aussi, notamment avec vous Frédéric Lordon, comment donner suite à ce film et comment, si c'est possible, en faire éventuellement un outil de mobilisation, une fois voilà, la rigolade passée. Mais alors, d'abord, Anne-Sophie, pour tous ceux de nos abonnés qui ne sont pas encore allés aux avant-premières, est-ce qu'il est possible, alors sans trop spoiler, comme on dit, c'est-à-dire dévoiler ce qui ne doit pas être dévoilé, est-ce qu'il est possible au moins de donner quelques indications sur le thème, le dispositif, l'intrigue, etc.
Bah déjà, l'histoire, hein, c'est celle de Jocelyne et Serge Clure, un couple du nord de la France qui vit avec 400 euros par mois depuis la perte de leur emploi dans l'usine ECCE, ce qui était un sous-traitant de LVMH et qui fabriquait des costumes Kenzo.
LVMH, groupe de Bernard Arnault, je l'avais dit.
Oui, groupe de Bernard Arnault. On n'avait pas encore prononcé les quatre lettres, hein, LVMH. Ce couple est aux abois et vous décidez de les aider en essayant, dites-vous, de toucher le cœur de Bernard Arnault, ce patron, comme vous l'avez dit, une des premières fortunes de France. L'homme est aussi connu pour ses rachats de sociétés, hein, dont celle de Boussac, dans le nord de la France, un groupe textile qu'il annonce dans les années 80 vouloir sauver, et puis finalement il démantèle pour ne garder que la pépite Dior, hein, qui va faire fructifier tout au long de ces années. Alors vous tentez d'approcher le grand patron, et notamment lors d'une assemblée générale des actionnaires, hein, précisons que vous avez une action LVMH, et là vous faites chou blanc, alors vous lui écrivez, et bingo, les Clure reçoivent la visite du numéro 2 de la sécurité du groupe, dont on ignore le nom et le visage, et qui semble sorti tout droit d'un film d'Audiard, un personnage qu'on aperçoit brièvement dans la bande-annonce du film que je vous propose de regarder.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Ça suffit, ces gens sont des parasites.
Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise.
Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois.
Mm-hmm. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu.
Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui.
Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars, elles changent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici ?
Rien. Je regarde, c'est ça la preuve.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois ?
On mange pas.
Eh bien, on va se faire vos porte-parole.
Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois ?
Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres.
On va aller leur défoncer, leur rager. On va arrêter, là. Allez faire les danseuses. Oh, merde.
Vous êtes de la part de Bernard Arnault ?
Oui, je travaille chez LVMH.
Désespoir, première.
Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.
Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Là, je n'ai plus rien à perdre. Non ?
Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Allez à Bernard. Et puis raquettez bien les PDG alors.
PDG.
Et puis raquettez bien les PDG alors.
PDG.
Alors, on va essayer de parler du film sans trop dévoiler quand même le ressort
de ce thriller.
Le ressort de ce... Non, mais c'est vrai, je veux dire, oui. Voilà, faut quand même pas tout dire. Alors d'abord, tout bêtement, l'idée est née comment, quand
À l'automne 2012, je m'ennuie dans la vie. Soit je fais une dépression, soit je fais le con. Et je choisis de faire le con en revêtant un t-shirt I Love Bernard et en allant tenter
c'est
pas le même exactement parce qu'il y a eu de la sueur et tout ça, mais entre temps. Mais et donc en allant rencontrer des salariés licenciés par le groupe LVMH en allant rencontrer un inspecteur des impôts belge, en formant un peu, c'est le début, c'est un peu sur le thème du western, où au début de cette mercenaire, on va chercher les sept personnes avec qui on va aller prendre notre revanche, et un peu, c'est un peu comme ça que je constitue une espèce de bande qui va aller intervenir en assemblée générale.
Mais c'est juste parce que vous vous embêtez dans la vie, ou est-ce qu'à un moment vous vous dites, bon, fakir, un petit journal, la presse écrite, c'est super, c'est amusant à faire et tout, mais j'en ai touché les limites, quoi. Il faudrait passer à autre chose.
Moi, de toute façon, j'ai fait. C'est pas seulement ça, c'est que je sors de cette année de Daniel Mermet, à la Bastille, j'y suis aussi. Donc j'ai touché à la radio, j'ai touché à l'édition, j'ai fait pas mal de bouquins, j'ai touché au journalisme, et puis ça, je continue de le faire. Et à chaque fois, finalement, la figure de Bernard Arnault, par ailleurs, est quand même quelque chose qui revient de manière non pas obsessionnelle, mais régulière à travers les émissions de radio ou bien les articles que j'ai pu faire. Donc finalement, j'ai accumulé une grande connaissance. Je pense que je suis le grand lecteur de Bernard Arnault. Je veux dire, qui connaît La Passion Créative, son livre publié aux éditions Plon, et qui peut en réciter des passages par cœur. Je connais ses interviews à Paris Match, là où il raconte qu'il passe ses réveillons sur des îles désertes. Enfin voilà, je connais ses goûts musicaux. Donc j'ai quand même une connaissance profonde de Bernard Arnault. Et finalement, sans le savoir, j'ai effectué cette année de repérage, puisque tous les personnages qui sont dans le film, ce sont des gens que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter. Donc ouais. Je me dis.
Mais justement, sur les médias que vous choisissez, on aurait pu imaginer que vous vous atteliez à The Big Biography, un livre de Bernard. Vous voyez, ouais. ça
d'abord, il y a déjà eu.
L'ange... Non, sans doute pas comme vous l'auriez fait.
Non. Mais L'Ange Exterminateur de Héry Routier est quand même un bon bouquin. D'ailleurs, les livres m'ont permis de comprendre le réel, moi. Parce que le Val de Nièvre, qu'on voit à un moment, Flic Secours, où on voit ces usines désaffectées qui sont à 15 km de chez moi, près d'Amiens, notamment Boussac-Saint-Frère. Donc, on voit Saint-Frère marqué en grand. C'était un village que j'ai traversé pendant toute mon enfance quand j'allais chez ma grand-mère en voiture. Et ça suintait la misère. Ensuite, comme journaliste de terrain, j'ai recueilli des témoignages de gens qui me racontent comment ils vont au Resto du Cœur pour se nourrir, comment leurs parents vont chercher un bon à la mairie le samedi matin, des bons d'alimentation, et font la queue pour obtenir un bon d'alimentation et doivent fournir des explications aux services sociaux et tout ça. Et à un moment, c'est en lisant des livres, notamment je me souviens de Le Portrait de l'homme d'affaires en prédateur d'un sociologue qui s'appelle Villette, que je vois le lien entre cette misère et l'homme qui est le plus riche de France. C'est là que je vois que l'origine de sa fortune, elle est à 15 km de chez moi. Que c'est en reprenant Boussac-Saint-Frère et en promettant aux salariés et au pouvoir public et aux syndicats qu'il va conserver les emplois. C'est comme ça qu'il fait fortune, en liquidant tout et en ne gardant que Dior. Et donc finalement, le lien entre... Donc, à partir du moment où je comprends ça, je me dis, bah, il faut que j'aille... mon rôle est d'aider les gens à le reconstituer, parce que les gens eux-mêmes qui ont subi ça en ont perdu la trace, en ont perdu la mémoire. Donc j'arrive avec le numéro de Paris Match, par exemple, où on voit le mariage de la fille de Bernard Arnault, et je discute avec les gens pour voir s'ils effectuent un lien entre la richesse qui est allée là pour le mariage de sa fille et leur propre situation sociale.
– Et alors ?–
Ben non, ça a disparu des mémoires, y compris des victimes elles-mêmes. Alors il en reste une qui maintient cette mémoire. –
Avec son placeur.
– Voilà, une bonne sœur rouge, Catherine Thierry, et qui a un petit classeur rouge, et dans laquelle...
La voit dans le film.
Qui a conservé des coupures de presse, et ainsi de suite. Et finalement, il faut se dire que la mémoire ouvrière et la mémoire sur la réalité de la fortune de Bernard Arnault est contenue dans ce petit classeur rouge qui vaut 1 euro chez Carrefour. Tandis que lui, pour que se rebâtir une mémoire, il peut se construire la fondation LVMH, quoi.
Alors, faire un film, c'est de l'argent. On va pas trop insister là aujourd'hui sur votre modèle économique, parce que je crois que vous allez aller rendre visite à nos camarades de hors-série bientôt, qui vont notamment, vous n'êtes pas au courant, mais si, je vous l'annonce, vous allez aller leur rendre visite, qui vont notamment vous interroger sur le modèle économique du film. Alors, juste sur un point, normalement, quand on fait un film, on monte un dossier auprès du Centre National du Cinéma, le CNC, ce que vous avez fait.
Ouais. Non, bah, le film a été autofinancé dans un premier temps par les abonnements au journal Fakir, et dans un deuxième temps, pour terminer le film, le producteur, parce qu'on est passé par un producteur normal, Mille et Une Productions, celui qui a produit Les Cauchemars de Darwin, et pour lui, il n'y avait pas de doute que pour terminer le film, c'est-à-dire payer les droits musicaux, faire de l'étalonnage, du mixage, enfin des opérations techniques, il y avait le CNC, lui, il a reçu des aides pour tous les films qu'il a produits. Et le premier film qui ne reçoit pas d'aide du CNC... C'est Merci Patron, quoi.
Alors, on est évidemment curieux comme on a essayé de savoir pourquoi.
Oui, est-ce qu'on a appelé le CNC pour qu'ils nous donnent leur version des faits? Alors, en effet, votre film est passé en commission une fois sa réalisation terminée. Et alors, je cite, la commission a jugé que la qualité cinéma était insuffisante pour recevoir une aide, c'est-à-dire que la vie artistique était négative. On m'assure que c'est absolument pas lié au sujet du film et qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Cela dit, le CNC m'a rappelé hier, donc 2 jours après notre premier coup de fil, en m'annonçant qu'après recherche, ils ont vu que le distributeur du film qui s'appelle Le Jour de Fête va recevoir une aide, elle, à la distribution, donc une aide pour que le film soit vu dans les salles en France. Vous saviez que vous aviez cette aide-là ?
Non, mais moi, je ne suis pas... Après, je sais qu'on a eu un obstacle au moment de la production. Alors, d'une part, il y a quand même déjà un papier de Gilles Balbastre, réalisateur des Nouveaux Chiens de Garde, qui a voulu s'atteler à un portrait de Bernard Arnault et qui a vu son dossier rejeté en 2-4-6. Il a fait un papier dans l'humanité. Ensuite, pour des raisons artistiques et cinématographiques, pour moi... Je vous l'ai écrit dans SMS, mais je peux le redire en plateau. C'est comme ça qu'on dit couille molle en langage germano-pratin, quoi, voilà.
Comme ça qu'on dit, c'est-à-dire, comment on dit?
Je veux dire que quand vous savez comment ça se passe dans le milieu journalistique. Quand on veut ne pas publier un papier, on dit qu'il y a un problème technique, qu'il est trop long, et puis tout ça. Je veux dire, quand s'opère quelque chose qui est de l'ordre de la censure économique et politique, on vient dire que c'est pour des raisons artistiques, tout comme dans le journal.
Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, il était important de l'avoir dans leurs mots et dans leur bouche. Alors, il y a le dossier auprès du CNC. Et alors, il y a un autre domaine dans lequel peut-être le sujet de votre film, ou alors sa qualité artistique, j'en sais rien, pourrait poser un léger problème. C'est l'accueil critique qui va être fait par du film, notamment par tous les médias, alors, qui soit sont la propriété directe de Bernard Arnault, soit dépendent étroitement des budgets publicitaires de LVMH. Là, vous avez des craintes
Moi, je ne veux pas me poser en martyr. Nous, on est passé par une boîte de distribution aussi, qui est normale, Jour de Fête, qui a un attaché de presse qui fait son boulot en ayant des projections presse et puis tout ça. Donc, pour l'instant, je ne veux pas me poser en martyr. C'est sûr que là, on vient de recevoir une nouvelle quand même ce matin qui est intéressante, puisque j'étais invité dans l'émission de Frédéric Taddeï lundi pour une diffusion mardi.
Son émission sur Europe 1.
Voilà, son émission sur Europe 1, Europe 1 Social Club. Et il y a un coup de fil de sa collaboratrice qui annonce à l'attaché de presse qu'elle a une très mauvaise nouvelle, mais qu'elle ne va pas pouvoir... que Europe 1 a interdit de recevoir François Ruffin. Donc il demande qui à Europe 1, ça vient d'en haut, on ne sait pas de qui en haut, donc on a téléphoné par ailleurs à Frédéric Taddeï qui nous a confirmé qu'il lui avait pas encore vu le film mais se disait qu'apparemment il posait problème, sans doute un souci commercial, donc j'ignore ce que c'est exactement.
On vous a parlé d'un souci commercial.
Oui, il m'a dit peut-être que c'est pour des raisons commerciales.
Enfin. Alors moi aussi je l'ai appelé Frédéric Taddeï.
Puisque vous nous avez prévenu ce matin, quelques heures avant le tournage, on
a appelé aussi Frédéric Taddeï. Qui effectivement ne connaissait pas du tout le sujet. Ce n'est pas qu'il n'avait pas vu le film, c'est qu'il ne savait pas du tout de quoi ça parlait, encore moins que ça parlait de Bernard Arnault,
dit-il.
Nous dit que, quand je lui pose la question, est-ce que c'est parce que c'est un film qui ridiculise Bernard Arnault que la direction d'Europe 1, celle qui l'a appelé ce matin au réveil, lui a annoncé votre annulation et lui me répond, c'est pas impossible, mais il avait aussi une autre hypothèse, il m'a dit peut-être aussi que Ruffin a écrit ces derniers jours du mal d'Europe 1 et que du coup ça aurait précipité cette annulation d'invitation. Je vous rapporte les propos qu'il m'a tenus au téléphone.
Moi, j'ai rien écrit sur Europe 1.
Vous avez dit mal d'Europe 1.
De toute façon, j'ai fait des papiers sur le groupe Lagardère et en particulier sur ses investissements dans l'aérospatial, mais ça remonte à mon avis à la campagne de 2007-2008.
Donc c'était pas exactement hier.
Ça fait 3 semaines que c'est annoncé. Encore, c'est marrant parce qu'à 12h03, on recevait un mail qui confirmait que j'étais invité à 12h08, 5 minutes plus tard on nous annonce une annulation et voilà, je veux dire, là c'est le sommet de Europe 1 qui a tiré sur le manche pour freiner et que je vienne pas, voilà.
Bon. Cela dit, en termes parfaitement cyniques, c'est pas forcément mauvais pour la promo du film.
Non, par ailleurs, je trouve qu'il y a dans cette situation, parce que une franchise qui est belle à voir. Parce que le problème, c'est qu'en général, ça se passe en coulisses, qu'on vous donne des raisons qui sont foireuses, que bah non, il n'y a plus le temps, c'est annulé, on ne sait pas exactement. Bah oui, mais là, on doit faire une semaine avec les parlementaires. Vous voyez, je devais faire une matinale la semaine prochaine dans une radio, et on nous annonce que bah non, finalement, la matinale, c'est pas possible de passer dans la matinale parce qu'il y a une semaine qui est consacrée aux parlementaires. Donc dans ce cadre-là, il n'y a plus de place pour Merci Patron. Bon, vous voyez, au moins
c'était,
là.
C'était quelle radio ?
C'était France Culture. Et là, au moins, il y a une certaine franchise dans l'annonce de la direction. Donc je remercie Frédéric Tadei
qui a
été très transparent. La direction de Europe 1 nous a demandé, nous a interdit, c'est les mots, nous a interdit de vous recevoir. Bon, bah, il y a une certaine clarté au moins.
Absolument. Bon, alors cela dit, on peut commencer à parler du film lui-même. Donc que nous avons vu avec Anne-Sophie, c'est pas un secret de dire que nous l'avons tous les deux beaucoup aimé. Alors, il y a évidemment une référence à laquelle on pense tout de suite, immédiatement, c'est Michael Moore et Roger et moi, quoi. Alors, Michael Moore et Roger et moi, je ne sais pas si on peut résumer.
Oui, c'est le premier film de Michael Moore, le premier documentaire qu'il a sorti en 1989. Donc, dans ce film, Moore se met très, très largement en scène pour raconter les conséquences des suppressions d'emplois dans sa ville natale du Michigan, Flint, suite à la délocalisation des usines de General Motors. Au total, ce sont 30 000 emplois qui ont été supprimés dans cette ville. Et Moore, lui, cherche à rencontrer le patron de General Motors, justement, qui s'appelle Roger Smith. Il cherche à le rencontrer pendant un an, en vain. Et alors, à défaut, il interroge son porte-parole. On l'écoute.
There were those who had a different opinion in Flint, like Tom Kay, a spokesman and lobbyist for General Motors.
I'm sure that Roger Smith has a social conscience as strong as anybody else in the country. Because a guy is an automobile executive does not make him inhuman. I've talked to enough of them, I know what their concerns are. He has as much concern about these people as you do, or as I do. And nobody likes to see anybody laid off or put in a hardship situation.
Have you ever talked to Roger Smith?
Sure.
Yourself?
Yeah.
Well, how do you find him to be? What kind
I never,
of...
a very warm man. I have...
A warm man? Did I have Roger Smith judged all wrong simply because he was eliminating 30,000 jobs from my hometown? I decided to find out. I wrote, I phoned, I faxed, I tried every means of communication available, but nothing seemed to get me any closer to Roger. I was left with no choice. I got in the car and drove about an hour south of Flint to Detroit, to the world headquarters of General Motors. My mission was a simple one, to convince Roger Smith to spend a day with me in Flint and meet some of the people who were losing their jobs.
Voilà. Alors le petit cinéaste comme ça qui arrive avec ses gros sabots et qui demande à rencontrer le grand patron et à l'amener avec lui sur les lieux de ses méfaits pour 24 heures. Évidemment, c'est le dispositif de départ de votre film, comme on le voit dans une scène.
Ah oui, la scène où vous vous rendez dans les locaux de la Fondation LVMH située en Belgique en compagnie d'un inspecteur des impôts belge, celui qui, me semble-t-il, a révélé le fait que Bernard Arnault sollicitait la nationalité belge. Pour quelle raison on l'ignore.
Parce qu'il aime beaucoup le chocolat belge.
Parce qu'il aime beaucoup le chocolat belge.
Ou les frites.
Ou les frites, ou que c'est peut-être pas très très loin du Nord, où il avait au départ implanté ses entreprises. Bref, vous entrez avec cet inspecteur belge et vous demandez à parler à la direction. On regarde.
Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. On peut
je
pas
vais appeler, mais
ouais, vous pouvez leur demander. Écoutez, et donc je suis avec un inspecteur des impôts belge qui est persuadé que M. Bernard Arnault a installé sa fondation en Belgique pour que ses enfants bénéficient de tout patrimoine de M. Bernard Arnault sans payer d'impôts. Et moi je suis persuadé que c'est vraiment être mal intentionné que de penser comme ça. Donc j'aimerais bien qu'à un moment il y ait un dialogue entre cet inspecteur des impôts et puis des responsables de LVMH et que voilà, vous le remettiez dans la raison, quoi. Monsieur Marco Van Hess, prenez bien son nom parce que... Van Hess. Alors, accrochez.
Alors, on voit que non seulement le dispositif de départ est le même, mais même, le type qui est persuadé qu'au fond, le grand patron n'est pas si méchant qu'on le dit, etc. Bon, vous avez marché.
À fond. À fond, évidemment.
Que vous dire ? Moi aussi, j'ai adoré le film. Je trouve d'ailleurs, la référence à Michael Moore est évidente, elle vient spontanément à l'esprit. En vérité, je trouve que le film fait davantage que du Michael Moore.
Après ?
Oui, après.
Dans un deuxième temps.
Dans un deuxième temps.
Là, on parle du dispositif de départ. Là.
Ah oui, voilà. Le dispositif de départ, bah oui, mais là, c'est du Michael Moore, d'un parfait classicisme.
C'était vraiment omniprésent dans votre esprit, consciemment, inconsciemment. Non,
voilà, je pense que j'ai tellement intégré Michael Moore que j'ai pas besoin de l'avoir consciemment à l'esprit. Moi, j'ai dû le voir une vingtaine de fois.
Ah ouais.
Chaque fois qu'il y avait des copains qui venaient chez moi, quand je l'ai vu, ça a été un choc politique, je peux dire, et esthétique, parce que je trouve que c'est vachement original comme manière de faire, de narrer les choses. Et chaque fois qu'il y avait un copain qui venait chez moi, il fallait qu'il regarde Roger et moi, et pour bien m'assurer qu'il le regardait du début à la fin, je m'asseyais à côté de lui et je faisais du contrôle politique. Quoi. Donc voilà, j'ai appris à parler anglais avec les cassettes audio des livres de où Michael Moore s'enregistre pour les aveugles et les gens qui veulent l'écouter en bagnole. Et j'étais un grand admirateur aussi de ces shows aux États-Unis, TV Nation ou The Social Truth. Donc, oui.
Mais du coup, l'inspiration, elle est parfaitement consciente, quoi. Consciente, revendiquée.
Ah oui, mais de toute façon,
j'ai fait du Michael Moore malgré moi.
Non, c'est intégré. Après, je pense qu'il y a d'autres apports politiques. Il y a Jean-Yves Lafesse, par exemple.
Ah ouais.
Les canulars téléphoniques de Jean-Yves Lafesse, j'aime beaucoup. Ou un côté Raphaël Mesrahi. Pour ce qui est de. Il peut y avoir des références comme ça.
Je me souviens, l'une des toutes premières fois où on s'est rencontrés, c'était en effet chez Mermet, à la base si j'y suis. C'était pendant la campagne du traité constitutionnel européen en 2005. Et tu montais un canular pour te faire passer pour Fritz Bolkestein. À l'époque, c'était la fameuse directive des régulations des services. Bolkestein était un commissaire européen qui pilotait la déréglementation du secteur des services. Et on était en pleine campagne où le thème du plombier polonais faisait fureur. Et François passait des coups de fil aux plombiers du Nord et se faisait passer pour Bolkestein avec un accent belge à couper au couteau et racontait qu'il avait des travaux de baignoire à faire et si on pourrait avoir un arrangement. C'était assez drôle.
Ouais, je faisais du Lafesse politique, quoi.
Alors, si on pioche parmi toutes les inspirations, on peut peut-être aussi parler des Yes Men. Je ne sais pas si les Yes Men, ça vous...
Non, je ne peux pas dire... Enfin, je veux dire, j'ai regardé leur film avec intérêt, mais je ne peux pas dire que ça m'est... Par exemple, si vous voulez un film qui m'a plus marqué, ça va être The Ambassador, l'ambassadeur, un film sur un Danois qui va en Centrafrique et se faisant passer pour un ambassadeur. Et là, on a des scènes en caméra cachée qui ressemblent un peu à ce qu'il peut y avoir dans le truc. Et en fait, on comprend ce qu'est la France-Afrique à travers son trafic de diamants en Centrafrique. Quoi.
Mais voilà. C'est-à-dire, le point commun de tout ça, c'est quand même l'imposture.
Oui.
L'imposture nécessaire, l'imposture révélatrice.
J'ai toujours aimé jouer des rôles, moi, même chez Mermet. Je me souviens que j'étais allé en Belgique, déjà sur le thème de la fiscalité, me faire passer pour le gendre d'un millionnaire français qui avait besoin de délocaliser sa fortune. Et donc, ça faisait que je rentrais dans des cercles huppés de Belgique, je rencontrais des grands propriétaires et tout ça. Donc, j'ai toujours aimé, en effet, un côté farce.
Est-ce que vous vous revendiquez journaliste ?
Oui.
Vous voyez la question, je veux dire, c'est pas très cachère.
Je pense que j'ai plusieurs. J'ai un volet beaucoup plus gramschiste, sérieux. Je fais des entretiens avec Lordon. J'ai des analyses. J'ai quand même.
C'est dire que c'est sérieux.
Non, mais. je veux dire, par exemple, ce thème de la délocalisation, là, je choisis de l'aborder sur le modèle humoristique. Peut-être que pendant 16 ans, je l'ai abordé sur des modèles beaucoup moins humoristiques. Vous m'avez pas invité, mais j'ai publié un bouquin qui s'appelle Leur Grande Trouille, journal de mes pulsions protectionniste et qui est quelque chose qui est de l'analyse économique sur les barrières douanières, les taxes aux frontières, les quotas d'importation et ce genre de choses-là. Donc je dirais que j'ai plusieurs volets. Ça ne veut pas dire que je suis divisé à l'intérieur, mais j'ai plusieurs volets dans mon travail et je manie, des fois je manie l'humour et des fois j'aime pas ceci.
On peut passer de l'un à l'autre.
Voilà.
Alors, pour essayer quand même de ne pas faire une émission trop consensuelle, puisqu'on est finalement quatre à être d'accord autour de cette table sur le fait que c'est un super film, c'est quand même un peu gênant, il faut essayer de trouver un peu quand même quelques critiques au film. Et
moi, j'en ai trouvé une en lisant un compte-rendu de vos avant-premières que j'ai lu sur le site de la Télé Libre, qui a par ailleurs adoré le film, mais qui disait que, a priori, certains spectateurs ont quand même fait des reproches et vous ont reproché de vous moquer, je cite, de la condition humaine d'éclure. Alors on a essayé d'isoler un extrait où on voit effectivement que vous avez un ton moqueur.
Chez l'éclure, la chimère devenait réalité. Il baignait dans le luxe même. Un nouveau grillage, la coupe de cheveux de maman, le papier peint la cuisine et le poêle à charbon dans le salon.
Ça, les pauvres, on leur donne de l'argent, tout de suite, ils le dépensent.
Ah non, non, moi non. Hein.
Ah si, regardez, vous
êtes... Bah oui, oui, mais il fallait le feu, parce qu'il nous a lâchés. On n'aurait pas eu de chauffage encore cet hiver.
Bon, moi, j'avoue, j'en ai pas été spécialement choqué, mais apparemment, certains spectateurs trouvent, voilà, trouvent votre ton trop désinvolte.
Moi, alors, pourquoi je pense que je peux me permettre l'humour avec l'éclure ? Je veux dire, dès l'entrée, puisque, bon, d'abord, je les ai déjà rencontrés auparavant, mais je pense que, malheureusement, j'ai une certaine familiarité avec ce malheur. Il y a des gens qui sont complètement estomaqués, qu'on puisse vivre avec 400 euros et qu'on soit dans la merde comme ça. On vous montrait la couverture de mon livre journal de mes pulsions protectionnistes, mais moi, cette détresse, j'ai eu l'occasion de la croiser pendant 16 ans de mon travail pour Fakir ou pour là-bas si j'y suis. J'ai vu, puisqu'on parlait de Boussac-Saint-Frère tout à l'heure, des anciens salariés de Boussac-Saint-Frère qui m'expliquaient qu'ils avaient failli ouvrir le gaz de président Noël, qu'ils n'avaient même plus une cuillère à eux, qu'ils habitaient chez leurs enfants et puis tout ça. Et je veux dire, quand on est familier de cette détresse-là, c'est pas ma famille, hein, mais quand on est, dans un premier temps, on rencontre ça, on pleurniche avec les gens, mais ensuite on peut se dire, qu'est-ce que ça change à leurs conditions de venir pleurer avec eux. Bon, ça rend visible une France invisible déjà, premièrement quand même. Mais ensuite, dans un deuxième temps, j'en fais de la politique. Je me positionne pour le protectionnisme et je me dis, bah voilà, pour que ça se produise pas en série, il faut prendre des mesures de cet ordre-là. Et dans un troisième temps, la question, c'est comment on remet les gens qu'on a en face en vie. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi à travers le film, c'est que on a l'impression d'une famille qui est un petit peu abattue. Au début du film, qui est quand même au bord du gouffre, qui sait pas du tout comment ça sortir, ça tourne complètement en rond et on va déposer des CV à droite à gauche. Si j'arrive et que je dis, c'est vraiment triste ce qui vous arrive, c'est bon, bah, qu'est-ce que ça va produire ? Rien. Si j'arrive, au contraire, finalement, comme un espèce de Dominique Seux des Échos. mais que à la place de faire ses éditoriaux en studio, il vient faire les remarques sur mais est-ce que vous recherchez vraiment du travail devant les gens eux-mêmes ? Vous voyez, en fait, ce sont des
j'ai du mal à saisir le parallèle.
Eh ben, je prends mon personnage est un espèce de Candide, un croisement de Candide et de Dominique Seux. C'est-à-dire qu'il fait des remarques libérales, mais les remarques libérales, à la place de les faire dans un studio de radio et un peu à l'abri du monde et tout ça, il va les faire dans la salle à manger des Clures.
Donc c'est un personnage construit.
Oui, bien sûr. Et il va les faire dans la salle à manger des Clures, en disant, mais est-ce que vous cherchez vraiment du travail ? Et là, l'absurdité de Dominique Seux éclate au grand jour dans la salle à manger des Clures. Ce qui m'est reproché, en fait, par les gens, c'est de tenir les propos de Dominique Seux, mais en situation.
Vous l'avez lu comme ça, le personnage de Ruffin ?
Mais il ne semble pas possible de le lire autrement. Enfin, je trouve qu'il en fait tellement trop dans ce registre-là que je finis par avoir peur et à me dire que certaines personnes ne percuteront pas que c'est du troisième, du quatrième ou du cinquième degré, etc. Et finiront par prendre au pied de la lettre que tu veux trouver le cœur de Bernard Arnault, tu veux le réhabiliter, tu œuvres à son rachat, etc. etc. Non, c'est une grosse blague, oui, bien sûr.
C'est vrai qu'à un moment, vous demandez à une ancienne salariée, il me semble que c'est aussi de CCE, je ne sais plus, qui est devenue aujourd'hui ambulancière, vous lui dites, mais c'est génial, il faut remercier Bernard Arnault, grâce à vous, vous avez grâce à lui, vous avez un emploi qui est mieux payé, et elle vous regarde estomaquée, et même nous, en tant que spectateurs, on se dit, mais pourquoi il parle comme ça ? Et puis elle dit, mais moi je l'adorais, mon job à l'usine, on était peut-être moins bien payé, mais c'était un job que je voulais, je ne dis pas merci du tout.
Mais par ailleurs, c'est un mode d'entretien. Si vous posez aux gens les questions dans le sens où ils l'attendent, ça ne fait rien surgir d'eux. Si vous les posez à contrario, alors qu'on se connaît par cœur, là on voit Marie-Hélène à l'écran, Marie-Hélène et moi, on a tout fait ensemble. Enfin, je veux dire, sur le plan journalistique. On a vraiment bourlingué dans tous les sens dans sa région, à Paris, on est allé intervenir en assemblée générale ensemble, on a été perturbé des fêtes, j'ai rapporté sa parole auprès de Sarkozy, enfin des tas de trucs comme ça, on l'a fait. Mais donc, on se connaît tellement par cœur, pour notre 17e rencontre, comment je fais pour qu'elle me raconte encore son histoire en y mettant de la vigueur et puis tout ça. Si je pose des questions dans le sens de la pente, ça donnera rien. Elle va me dire oui, toi, t'as tout fait raison. Si j'y vais avec contrario en lui demandant de remercier Bernard Arnault pour son licenciement, même si elle me connaît, ça lui produit quand même quelque chose encore.
D'accord. Bon, alors pour en terminer avec les influences éventuelles, avant d'en venir au basculement du film, parce que je pense que c'est dans sa deuxième partie que le film prend vraiment toute son originalité, pour en terminer avec les influences, vous allez perturber une assemblée générale de LVMH, vous êtes dans la salle, vous prenez la parole, vous essayez de la prendre. Bon, ce qui est aussi quelque chose qu'on a beaucoup vu toutes ces dernières années au cinéma et à la télévision, avec notamment une émission qui s'appelle Cache Investigation, dont l'animatrice Élise Lucet est coutumière de ce genre de happening.
Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je suis aussi titulaire d'une action Sanofi. C'est une question qui s'adresse à M. Wiebarer. Les actionnaires vont valider aujourd'hui votre rémunération, M. Wiebarer, avec 8 648 326 euros. Vous êtes le patron le plus heureux, mais aussi le mieux payé de France.
Bonjour, je m'appelle Élise Lucet, je viens de France, je suis actionnaire de Bayer, et je voudrais savoir si je peux poser une question en français ou en anglais.
Madame, je suis désolé de vous interrompre, mais dans cette assemblée générale des actionnaires, vous devez parler en allemand ou faire traduire votre question en allemand.
J'ai pris mon traducteur, donc vous allez m'entendre en allemand. Une minute, s'il vous plaît.
Voilà, bon, là, c'est une petite incise dans l'émission. J'étais curieux de savoir, Frédéric Laurent, si vous regardez Cache Investigation, est-ce que vous en pensez ?
Pas beaucoup, non. Je ne suis pas un gros consommateur de télé. J'en ai entendu parler. Ouais. Oui, je crois savoir que c'est une émission dont la tonalité critique détonne dans le paysage général.
Vous n'avez pas eu la curiosité d'aller écouter ?
Qu'est-ce que vous voulez ? Les journées n'ont que 24 heures et il y a tant d'autres choses à lire et à voir.
Je recommanderais à Frédéric. Quoi. Mais je trouve le travail de Élise Lucet remarquable. Et même sur le plan narratif.
C'est lui qu'il faut convertir.
Même sur le plan narratif, je trouve que souvent il y a des trouvailles narratives. Je me souviens de celui qu'elle avait fait sur le football et tout ça. Alors ça peut être. Mais je trouve ça bien. Alors j'ai deux choses à dire. Je considère que c'est moi qui influence Élise Lucet avec orgueil et non pas l'inverse, si je puis me permettre. Parce que depuis 2007, c'est la première intervention d'Assemblée Générale qu'on a fait. Et on l'a fait justement chez LVMH. Mais ensuite, a suivi Casino à deux reprises. On a suivi Vinci. Donc, c'était une démarche qui était antérieure à Cache Investigation. On l'avait filmé. Il y en a qui ont été filmés, ouais.
Vous êtes à la tête de tout un tas d'actions, vous, alors.
mais je les revends, hein, quand même. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que par rapport à ce qu'on faisait par rapport à Cache Investigation, c'est qu'on amenait toujours les salariés, que c'était des salariés ou des gérants chez Casino ou des gens qui avaient été licenciés ou des choses comme ça, qui prenaient la parole directement en Assemblée Générale. Là, en l'occurrence, c'était Marie-Hélène Bourlard pour LVMH qui l'avait prise. Et ça avait donné, en fait, un moment tout à fait magnifique parce que rares sont les endroits où on peut avoir en direct la confrontation du capital et du travail. En général, le capital a toujours des moyens de tenir le travail à distance. Ce sont les vigiles, éventuellement, comme on voit dans le film, mais c'est plus généralement les conseillers en communication qui sont des conseillers en non-communication qui viennent pour vous tenir comme ça éloigné. Et là, on avait eu en direct avec Marie-Hélène une séquence tout à fait poignante où les deux se confrontaient et on avait les deux discours qui s'entremêlaient. En fait, mon film, au départ, consistait à vouloir recréer cette séquence magnifique que j'avais loupé en vidéo, qui n'avait pas été filmé. Et je voulais recréer ça en plus gros, en amenant d'autres et puis tout ça, mais je voulais recréer ça en plus gros.
L'ambition de départ, c'est ça, c'était de provoquer la rencontre, mais sur leur terrain à eux, c'est-à-dire dans l'Assemblée générale.
Et c'est un échec complet.
Sur ce plan.
Parce qu'on a été, en fait, on a été infiltrés. Notre groupe a été infiltré.
Non.
Si. Notre groupe a été infiltré par une personne de LVMH quand on a monté cette intervention. Notre groupe a été infiltré par une personne de LVMH qui nous a trahis, évidemment, et qui a annoncé à LVMH. On a repéré le traître, mais à la place de le dénoncer en place publique, on a continué à faire comme si on le croyait avec nous, de manière à pouvoir envoyer des mauvaises informations au groupe et à pouvoir les intoxiquer.
Alors, attends, cette infiltration, on la voit dans le film.
Non, l'histoire aurait été trop compliquée si j'avais tout raconté dans le film. Donc là, il y a un pan. En fait, si ça a échoué, c'est parce que nous avions été infiltrés.
Mais comment ils ont pu vous infiltrer ?
Ben, c'est simple. On avait fait quasiment un appel aux bonnes volontés volonté de nos abonnés pour venir nous... Enfin, on n'avait pas envoyé comme ça à tout le monde, mais pour venir nous aider éventuellement à intervenir dans une assemblée générale. Il s'était greffé là-dessus.
Et vous l'avez repéré rapidement ?
En fait, on a compris très... Enfin, on a vu des doutes très vite, et à un moment, il y a une information que seul LVMH pouvait détenir. Enfin, seul le commissaire pouvait détenir. Et à un moment, il me répercute.
Lui, l'infiltreur.
Oui, l'infiltreur me répercute cette information. Donc, ça voulait dire... qu'il était de mèche avec le commissaire et avec LVMH.
Parce que là où vous échouez, et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que l'Assemblée Générale, et ça c'est assez ahurissant, on voit qu'elle est découpée en deux, c'est-à-dire d'un côté les petits actionnaires, dans lesquels vous êtes donc confinés dans une salle où vous n'avez absolument pas accès à Bernard Arnault, vous ne le voyez que via un écran sur grand écran, et puis on imagine une salle avec les actionnaires plus importants. Ça c'est un dispositif qu'ils ont mis en place parce qu'ils savaient que vous alliez venir... Ah d'accord, ah oui. D'accord. C'est pas un dispositif usuel. Non. Et aujourd'hui, ils procèdent de la même façon.
Je ne sais pas, ça m'étonnerait. À mon avis, ils sont revenus à un dispositif
lors avec tous les actionnaires.
En 2014, ils étaient revenus à un dispositif.
Alors échec flagrant, vous l'avez dit sur l'irruption dans l'Assemblée générale, mais en revanche, alors une réussite là où vous l'attendiez pas du tout.
Je veux dire, moi, être de gauche, c'est être habitué à la défaite. Donc, comme on est habitué, on s'en relève quand même aisément. Mais en tout cas, même si on a le moral dans les chaussettes, on remonte sur le cheval, quoi. Et donc, on essaye de remonter sur le cheval. On se dit qu'on va tenter un nouveau truc et puis encore un autre. Et puis, à un moment, il y a un truc qui marche.
– Alors, à un moment, il y a un truc qui marche.
– Le truc qui marche, pareil, sans dévoiler non plus le ressort du film.
– Pas trop, disons. – On
va me dire que vous réussissez à piéger un des responsables de la sécurité de LVMH qui vient rendre visite au couple, monsieur et madame Clure, que l'on voit dans la bande-annonce. Vous le filmez à son insu, donc en caméra cachée. Et là, on n'a pas résisté quand même à diffuser cette scène, parce que pour nous, c'est la scène clé du film, on voit ce personnage complètement terrorisé par Fakir. On l'écoute.
Si vous voulez, c'est l'image. Vous me faites marrer. Si vous avez tenté ça, c'est bien parce que vous savez que quelqu'un n'aime pas qu'on attaque son image. Quand on est dans les défilés, les machins, les trucs comme ça, c'est l'image. Oui. Chaque lettre est une balle. Et il y en avait une qui aurait très bien pu faire mouche. Parce que Fakir, est-ce que Fakir, ils auraient pris votre dossier ? Peut-être, parce qu'ils sont venus à notre assemblée générale essayer de la perturber. Tel que vous me voyez, moi je suis pas toujours gentil. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai pris par le pantalon et je l'ai éjecté. Ils sont sur un échec. Partant de là, peut-être à Fakir, si elle était arrivée, il serait dit putain, il attaque les mâches, les machins, on va reprendre son affaire.
C'est si vous faites plus peur dans les lacs, c'est Fakir.
Oui.
On envoie à Mélenchon, on envoie à Hollande, on envoie à tout ça.
Fakir.
On envoie au monde.
Fakir.
On envoie à France.
Fakir.
Je sais pas, ça c'est un petit truc.
Mais, regardez, c'est les minorités avissantes qui font tout.
Alors, l'écran noir, c'est pas nous, hein, c'est vous. Hein.
Oui, comme il a tardé à arriver dans la pièce, les batteries de la caméra étaient mortes avant la fin de
heureusement qu'il y avait le son.
Voilà, il nous reste le son.
Heureusement. Alors, cette terreur qu'inspire Fakir à LVMH, révélation du film.
C'est sidérant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Alors comment on peut l'interpréter, je veux dire ? Comment on peut comprendre ça ? Comment on peut comprendre que l'éléphant soit terrorisé par le moustique ?
Je pense que c'est un effet de la paranoïa dans laquelle vivent les puissants. Et aussi, corrélativement, c'est un effet de l'arasement et la disparition complète de la critique dans le champ média mainstream. De ce côté-là, ils n'ont plus rien à redouter. Donc, il n'y aura pas de danger. Alors, par contre, qu'est-ce qui reste ? Il reste les moustiques marginaux comme ça, auxquels on donne d'autant plus d'importance qu'ils sont plus marginaux, précisément.
Mais pourquoi ils s'en foutent pas ? Parce que, je veux dire, logiquement, on imagine qu'ils devraient s'en foutre de Fakir.
Oui, mais
Fakir peut raconter ce qu'il veut.
Oui, c'est vrai, mais je pense que les puissants entretiennent une vision systématiquement distordue de la réalité du monde social. Ils vivent dans un autre monde, ils sont hors sol, et Et l'acharnement à protéger leurs intérêts matériels les conduit à avoir des représentations qui sont purement et simplement délirantes.
Alors, cela dit, vous abordez une autre hypothèse dans le papier que vous avez fait sur le film dans le monde Diplo, l'hypothèse de la mauvaise conscience de ces puissants.
Oui, c'est vrai. Alors, évidemment, c'est une incursion en terrain psychologique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais l'idée m'a traversé l'esprit, alors je l'ai lâchée. En effet, je me demande s'il n'y a pas une espèce de sourd travail de la mauvaise conscience de ces élites qui commencent à se rendre compte qu'elles en ont trop fait pendant trop longtemps et qu'au bout d'un moment, ça va finir par craquer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas.
La mauvaise conscience. Alors, comment vous expliquez-vous ? J'imagine que vous avez dû être sidéré de la scène, là.
Non, j'étais complètement confiant dans la puissance de notre organisation.
Alors,
c'est les autres qui en doutent. Non, je pense que d'abord, c'est moins le journal qui craigne que notre capacité d'action liée au journal. C'est-à-dire notre capacité d'abord, notre entêtement, parce que moi, je suis quand même un bon pitbull. Quand j'ai un morceau entre les dents, je le lâche pas, quoi.
Mais enfin, des psychopathes entêtés, il y en a plein. Je
d'accord.
Veux dire,
mais après, avec peut-être une volonté d'être un catalyseur, c'est-à-dire que une capacité à agréger, non pas à rester seul. C'est pour ça que je reviendrai sur la phrase du commissaire, ce sont les minorités agissantes qui font tout. Mais non pas à rester seul, mais à chercher comment raccrocher une fraction du mouvement ouvrier, comment raccrocher des dirigeants politiques, comment raccrocher différentes sortes de trucs, et qui fait qu'à mon avis... Après, moi, je pense que j'entends les gens dans les salles, c'est le passage où il y a un éclat de rire, c'est éclat de rire sur éclat de rire, ce passage-là. Et je pense que j'ai eu une discussion avec une spectatrice en disant, mais finalement, pourquoi vous riez à ce moment-là, quand on dit fakir, fakir, fakir? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la libération, parce que ce qu'ils viennent nous dire là, c'est, vous savez ce qu'on disait de l'Union soviétique, un colosse au pied d'argile. Et je pense que là, le sens qu'il y a dans les propos du commissaire, quand il vient dire ça, c'est que finalement, les puissants qu'on regarde comme des tout-puissants, eh ben peut-être que eux aussi, ce sont quelque part des colosses au pied d'argile, pour se mettre à trembler comme ça.
À leurs propres yeux.
Oui, alors
qui rejoint l'hypothèse de Frédéric Lorme. Ouais. C'est-à-dire
je pense que dans l'élite des super riches, les moins aveuglés commencent à se rendre compte, alors plus aux États-Unis qu'en France, commencent à se rendre compte que l'ordre social qui les a si bien servis est en train d'arriver, de se diriger vers ses points critiques. Il y a cette célèbre phrase de Warren Buffett qui est qui date des années 2000 d'ailleurs, de reconnaissance de l'existence d'une lutte des classes. Il y a une lutte des classes et c'est ma classe qui l'a gagnée. Je pense à un papier qui avait été publié l'an dernier par un milliardaire dont j'ai oublié le nom malheureusement aux États-Unis, qui s'adressait à, je cite, ses chers collègues milliardaires, et le titre du papier c'était « Les fourches arrivent et elles arrivent pour nous ». Donc, si vous voulez, il y a quand même un degré de lucidité qui n'est pas tombé complètement à zéro, mais qui parcourt tout un spectre de l'analyse en bonne et due forme de l'état des forces objectives, quoi. Hein. À un moment, il va y avoir une rébellion et ça va faire mal, jusqu'au travail un peu obscur de la mauvaise conscience, si c'est ça la bonne hypothèse pour Bernard Arnault.
Alors, après, évidemment, la question que pose le film, c'est, d'accord, on rit beaucoup. Je veux dire, on est formidablement libéré pendant le film, en sortant, etc. Et puis on sort de la salle, et qu'est-ce qu'on en fait ? Je veux dire, c'est quand même ça la question centrale. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? On s'est bien marré, on a passé une heure et demie formidable, et après il se passe quoi ? Ce qu'il y a sous cette question, c'est quand même la constatation que le rire peut aussi être totalement démobilisateur, quoi.
Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Non, là, je pense pas du coup tout qu'on soit dans un rire démobilisateur. En plus, faut voir le climat de la gauche en ce moment. Qui est quand même d'une morosité étouffante, le mouvement ouvrier qui est déprimé. Enfin, on est dans ce contexte-là, et il est évident pour moi que déjà, en soi, quand bien il n'y aurait que ça, mais qu'en soi, pendant une heure et demie, on rit, on dégonfle la baudruche de l'oligarchie, on voit que les petits peuvent gagner contre les gros, je pense qu'en soi...
– Ça vous suffirait.
– Mais oui, ça produit déjà un enthousiasme potentiel. Ce qu'il faut d'abord, c'est ranimer les cœurs. Dire là, il y a quelque chose qui est éteint au niveau des âmes, c'est ça qui est d'abord à rallumer. Donc, quand bien même ça se traduirait pas par un mouvement construit ensuite et tout ça, déjà en tant que tel, je pense que...
– Et est-ce que ça vous suffirait aussi ?–
Mais François vient de dire quand bien même il n'y aurait que ça, moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Et en effet, la question que vous posez est la question majuscule à adresser à ce film. On rit beaucoup, en effet, Mais on ne fait pas que rire, d'ailleurs. Hein. On ressort du visionnage de ce film dans un état d'effervescence qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. En tout cas, moi, ça a été le cas. Et pourtant, je l'ai vu en privé avec ma compagne. Il n'y avait pas 300, 800 personnes autour qui mettent en commun leurs éclats de rire, etc. Et déjà, ça nous a fait un effet absolument sensationnel. Et la question qui vient immédiatement après, c'est on voit ce film, on en ressort zonzonnant comme des centrales électriques et on se dit, mais c'est pas possible que toute cette énergie-là se perde dans les sables. C'est pas possible qu'il y ait juste ce coup-là qui nous ait réjoui et puis plus rien derrière.
Alors, puisque vous prenez l'exemple thermique, comment on convertit ?
Alors voilà, c'est toute la question. Mais c'est toute la question. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a une sorte de convergence tout à fait inattendue qui s'est produite, puisque avec d'autres personnes, on était en train de se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette conjoncture ? Il y a quelque chose à faire, etc. Une conjoncture dont les caractères sont très contrastés en vérité. On a l'impression que c'est obscur, que c'est sombre de partout, et en même temps, il y a une prolifération de colère, de révolte, c'est-à-dire d'énergie potentiellement mobilisatrice qui est tout à fait réelle, quoi. Et puis alors le film de François arrive. Et l'idée qui m'est apparue immédiatement, c'est que ces deux questions n'en faisaient qu'une, quoi, et que le film pouvait être le détonateur, c'était le point de catalyse de tout ce qui est en suspens, parce que la société française est à l'état d'une pièce fermée, saturée de vapeur d'essence, et qui est en attente de l'allumette qu'on va craquer. Alors, si le film était l'allumette à craquer ? C'est pas la seule, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, il y en a pas mal des allumettes qui sont craquées en ce moment. Le film, Goodyear, c'est un truc quand même qui a suscité une indignation bien au-delà.
Et la condamnation de 8 syndicalistes à des peines de prison.
Absolument. Il y a une indignation qui va bien au-delà de ce que ce genre d'affaires suscite habituellement.
Vous avez trouvé ?
Ah oui.
Franchement.
Oui, je trouve.
Vous avez eu beaucoup de manifs dans les rues. De solidarité avec les ouvriers.
Mais pas encore. Mais les choses se construisent progressivement. Elles naissent dans leur biotope favori. Et puis après, elles s'étendent. Mais moi, j'ai noté à propos des Goodyear deux choses. D'abord, il y a une pétition qui a été lancée qui a recueilli.
150 000.
Je croyais que c'était 200 000. Bon, entre 150 000 signatures. C'est assez considérable. C'est beaucoup plus, par parenthèse, que l'appel à la primaire machin chose. Hein.
Machin chose, je traduis, c'est la primaire de la gauche lancée par un certain nombre d'intellectuels.
Absolument. On en reparlera sans doute. Il y a des comités locaux qui se sont formés. Alors, ça va vous paraître tout à fait anecdotique, mais moi, je pense que c'est une anecdote qui est assez symptomatique. Vous savez que, habituellement, ceux qu'on appelle les people, les acteurs, les artistes, enfin les gens à notoriété, ne s'engageaient absolument pas pour des causes sociales. On n'a jamais vu un acteur sur un piquet de grève. On n'a jamais vu un acteur prendre fait et cause dans un conflit social. Alors, pour les migrants, les sans-papiers, etc., oui. Mais pour les ouvriers, jamais. Et là, dans l'appel des Goodyear, il y a des acteurs, il y a des gens connus, il y a des gens du milieu du cinéma, etc. Alors, leurs noms ne nous surprennent pas. Mais en même temps, de mémoire, Toretton, Guédiguian, Ariane Ascarine, Solo, Bruno Solo et Le Bolloc.
Lavilliers,
etc. Donc, des gens commencent à avoir le désir de risquer leur notoriété sur des causes qu'ils évitaient assez systématiquement auparavant. Voilà, donc c'est des petits signes, hein, tout ça. C'est pas grand-chose, l'accorde.
Comme vous le soulignez vous-même, les signataires que vous avez énumérés, là, n'en sont pas à leur premier engagement social.
C'est vrai. Mais, si vous voulez, on essaye d'agglomérer comme ça, enfin, des petits signes, et puis d'en faire une mayonnaise. Voilà. Alors même là, on travaille à la mayonnaise.
Alors, je sais pas si dans la pièce saturée d'essence, vous mettez, par exemple, le futur projet de loi El Khomri de réforme du Code du Travail.
Vous me l'ôtez de la bouche. Et celui-là, ça va être un fameux hippo là qui va être.
Vous avez l'impression ?
Ah ouais, je pense. Ouais. Là, je pense que ça va trop loin.
Vous avez le même optimisme ?
Moi, je pense que le mouvement ouvrier est quand même blessé. Enfin, ça fait 30 ans qu'il se prend des coups dans la figure et qu'il est en état d'asthénie. Moi, c'est mon travail. Je disais lors d'une réunion qu'on avait que ce que je souhaitais, c'était la jonction de l'Ordon, de Notre-Dame-des-Landes et des Goodyear. C'est-à-dire, là, il y a des conflits qui apparaissent comme étant. En une semaine, on a eu une manif sur Goodyear. On a eu contre la condamnation des Goodyear, une manif contre Notre-Dame-des-Landes, une manif contre l'état d'urgence et une manif contre la réforme des collèges. Je veux dire que le problème, c'est cette division permanente. Tandis que si on se disait qu'il y a un souci, c'est une oligarchie qui contrôle grosso modo les médias, le gouvernement. Enfin, vous voyez ce que il y a. Moi, je pense que pour reprendre les images de combustion et puis tout ça, le moteur il pourra démarrer seulement quand on parviendra à opérer une jonction. Je pense que les goudeurs en eux-mêmes c'est pas un truc suffisant pour faire péter le truc. Notre-Dame des Landes en soi c'est pas un truc suffisant pour faire péter le truc. La réunion des deux et d'autres trucs comme ça, ça peut marcher quoi.
Et là, en quoi votre film, justement, peut-être... Alors, je ne sais pas si je dois reprendre encore la métaphore.
Moi, ce n'est pas moi. Je pense que c'est un élément qui peut être, pour les gens qui le voient, qui redonne envie de s'engager, porteur d'enthousiasme. Par ailleurs, moi, je pense que c'est un film transclasse. Moi, je refais mon rez-de-chaussée. En ce moment, on voit dans le film que c'est le premier étage, la salle de bain, mais là, en ce moment, c'est le rez-de-chaussée. Et j'ai invité le gars qui est le plaquiste, j'ai invité le peintre et tout ça à venir. Et puis, j'ai invité mon coach des Portugais Damien, parce que je joue au foot tous les dimanches matins, et à qui il a fallu indiquer où se trouvait la salle de cinéma Arrêt d'essai Damien. Ils sont venus me voir avec les yeux rougis, émus et tout ça, en me disant surtout, te mets pas au bricolage, continue à faire ton métier.
et donc, ils défendent leur job.
Voilà. Mais donc, avoir un film qui peut passer de l'ordon, des intellos au prolo, quoi, ben voilà, je pense qu'il y a un outil. Qui est un outil de construction. Alors moi, j'ai plus de mal, hein, on le sait, à me situer dans les grandes dynamiques comme ça. Je sais ce que je vais essayer sur ma région, sur mon département. Moi, dans ce que je vois comme signe, c'est quand même que j'ai eu le Front National à 42-43% aux dernières élections dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et quand on dit une pièce saturée d'essence, ça en est aussi un signe. Que la colère, elle se dirige pas dans la bonne direction, c'est quelque chose qu'on peut regretter. Mais n'empêche qu'on peut pas... On ne peut pas ne pas voir ce signal massif qui est adressé. Donc voilà. Bon, donc moi, comment je vais me bagarrer avec mes petits moyens. Nous, on tente le réveil des betteraves à Amiens. À partir du 12 mars, on va dire.
On tente le réveil des betteraves,
on tente d'organiser un truc. On a 70 000 tracts qui partent dans les différents villages et puis tout ça de la Somme pour essayer de dire, ben voilà, maintenant ça suffit. Regroupons-nous,
Les betteraves étant les picards.
On a eu les bonnets rouges. Bon, maintenant il faut des betteraves rouges, mais très rouges, quoi. ensuite, c'est une chose, et moi je pense que ce film, une projection à âme est aujourd'hui, donc qui est dans la Somme, qui est un bled de la Somme, est aujourd'hui plus importante pour moi qu'une projection à Berlin. Parce que la projection à Ham, là où il y a par exemple les SAPAG qui luttent en ce moment, si on a une projection dans la salle municipale, si ça réveille les gens là dans mon coin, et si je peux le faire avec ce film en l'amenant, parce qu'il y a une chose, c'est d'amener les gens vers les salles de cinéma, on sait que c'est pas toujours facile, mais d'aller le porter chez eux et que ça fonctionne et qu'ils ont envie de s'en emparer et que ça leur fait plaisir, et que derrière, on leur dit, bah voilà, il y a peut-être des solutions qui sont des solutions de gauche progressistes plutôt que d'être dans la solution Front National, voilà comment concrètement
Ce qui me frappe depuis le début de l'émission, c'est le nombre de références que vous faites à votre région. Je veux dire, Amiens, la Picardie, Ham, la Somme, etc. On a l'impression que vous avez vraiment pris comme sujet, comme corpus, la situation de votre région, les conflits sociaux dans votre région, les chômeurs dans votre région, les usines fermées dans votre région, faisant le pari que finalement tout ça acquérera une dimension universelle et nationale.
Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que quand les gens, à part au niveau de l'accent, mais quand je vais dans le sud de la France, les gens voient dans l'éclure quelque chose d'universel et non pas quelque chose de localisable. Et en effet, moi je parle de ce que je connais bien et de là où il me semble que je peux agir le plus directement, quoi.
Alors, je voudrais qu'on termine, voilà, qu'on revienne un peu au film lui-même, c'est-à-dire à...
J'ai une dernière truc. Mais tu vois, il y a un truc, c'est... est-ce qu'on doit faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire éduquer les gens du peuple, ça c'est une chose, mais moi je pense aussi qu'on doit faire de l'éducation de la petite bourgeoisie. Que je veux dire que ce qu'on voit dans le film, la gueule d'éclure et la manière dont on sent leur souffrance au début du film, ben voilà ce qu'on a fait subir aux classes populaires de mon département, de ma région et tout ça, mais aux classes populaires françaises depuis 30 ans, et avec notre consentement. C'est pas qu'on sait que la mondialisation était heureuse, mais enfin, on l'a laissé accepter. Eh bien, je pense que quand on voit l'éclure, on se dit d'abord, on ne peut pas imposer cette souffrance sociale sans qu'elle ait des dégâts psychologiques et sans qu'elle entraîne des conséquences politiques. Et par ailleurs...
– Non mais attendez, vous dites ça à la petite bourgeoisie.
– Oui, je le dis à la petite bourgeoisie. Je dis à la petite bourgeoisie, regardez ce qu'on a fait souffrir pour essayer de dire... il y a une solidarité qui est à recréer. En effet, c'est la petite bourgeoisie qui vient essentiellement dans les salles de cinéma, et j'en suis, c'est pas grave, quoi. Mais de dire, ben voilà, est-ce qu'on continue de faire subir ça aux classes populaires de notre pays, ou bien est-ce qu'on se solidarise avec elles?
C'est intéressant ce que vous dites, ça me rappelle ce que je disais il y a quelques semaines, Pierre Joxe, qui était assis à votre place, l'ancien ministre de l'Intérieur de Mitterrand, et qui lui faisait l'analyse totalement inverse, qui est d'une fragmentation totale de la société française, d'une dissolution de ses solidarités, et qui disait, bon, ben, la petite bourgeoisie n'en a plus rien à foutre, des ouvriers et du prolétariat, quoi. Et plus ça va, moins elle en a affaire.
Ouais, tout en le regrettant, parce que je me souviens tout également de cette émission. Et c'est là où ça nous avait halluciné. C'est que pour lui, ça venait pas d'en haut, hein, d'un pouvoir politique qui pourrait effectivement apporter des solutions. Mais pour lui, la solution venait justement de toute cette classe qui, aujourd'hui, on a strictement rien à taper.
Mais je pense que c'est une question clé. C'est une question clé que pose mon film. C'est-à-dire que dans mon film, pour moi, c'est une fable. Moi, je suis l'incarnation de la petite bourgeoisie intellectuelle, on a les Clures qui sont l'incarnation des classes populaires et Bernard Arnault qui est l'incarnation de l'oligarchie. Si j'y vais tout seul, j'ai pas de film et je remporte pas de victoire sur Bernard Arnault. Si les classes si les Clures y vont tout seul, ils restent dans la merde. Et c'est la jonction des deux et des armes des deux qui permet d'aller embêter l'oligarchie. Et pour moi, c'est une leçon d'ordre plus général en France, c'est tant qu'il n'y a pas la jonction des classes populaires et de la petite bourgeoisie intellectuelle, ils sont tranquilles, ils feront ce qu'ils veulent sur le terrain social, environnemental, fiscal et ainsi de suite.
Et les actionnaires ?
Et les actionnaires, oui.
Y compris les petits actionnaires non, avec lesquels vous étiez parqués, là.
Bon, les petits actionnaires, j'en sais rien, mais oui, les actionnaires,
ils sont perdus.
Bah oui, ils appartiennent au capital, quoi. Au moins mentalement, déjà. Mmh. Donc après, ils ont une conscience, une vraie conscience d'actionnaire. Je terminerai donc sur une citation de Lénine qui disait « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Eh bien, je pense qu'il y a un enjeu à faire basculer ou rebasculer ceux du milieu avec ceux d'en bas, et ça, je suis convaincu que mon film peut être un instrument pour ça.
– Sur cette analyse purement marxiste-léniniste en termes de classe ?–
Groucho-léniniste, j'insiste.
– Elle est impeccablement pertinente. Je pense que le diagnostic de Jox n'est pas faux, mais qu'il est remédiable. En tout cas, si on part d'une autre hypothèse, autant aller se pendre tout de suite, et c'est pas notre projet pour la période qui vient. Je me rends bien compte de cette dissociation. Par exemple, à partir d'un lieu parisien dont on a un peu parlé parce que il est en difficulté financière actuellement, c'est ce bar de Ménilmontant qui s'appelle le Lieu-dit, qui est devenu un lieu de ralliement de la gauche radicale. Le Lieu-dit est dans un quartier populaire, Ménilmontant. Mais la sociologie de sa fréquentation est tout sauf populaire. C'est la petite ou moyenne bourgeoisie éduquée à haut niveau de capital intellectuel, culturel, etc., etc. Et quoi que nous parlions presque à chacune de nos réunions de sortir du néolibéralisme, mais aussi sortir du capitalisme, etc., on voit bien que nous sommes un isolat social sans lien avec ceux qui souffrent au tout premier chef de cet ordre capitaliste, à savoir précisément les classes ouvrières, auxquels on pourrait ajouter les employés, ça fait tout ça plus de 50% de la population active. C'est quand même des très très gros bataillons. Tout le but de la manœuvre et de ce qu'on essaye de faire autour de ce film, c'est d'opérer un certain nombre de sutures ou de soudures entre des bouts de la gauche, enfin je veux dire de la vraie gauche, enfermés dans leurs causes ou dans leurs habitus, comme dirait un sociologue bourdieusien, qui s'ignorent mutuellement, etc. Donc, alors, la petite et moyenne bourgeoisie éduquée, intello précaire, etc., d'un côté, les ouvriers, tu as parlé des écolos, etc. Moi, il y a un autre bloc qu'il faudrait rajouter, qu'on passe systématiquement sous silence, à mon avis, alors qu'il est très important, c'est la jeunesse des banlieues. La jeunesse des banlieues, j'ai toujours été très étonné, enfin, plus, pas toujours, j'en ai pris conscience que très tardivement, d'ailleurs, que ce livre extraordinaire, qui s'appelait « L'insurrection qui vient », qui était paru en 2007... et qui donc prophétisait une insurrection à venir que nous attendons toujours.
Livre du comité invisible.
Livre du comité invisible, absolument. N'accordait quasiment aucune place à une insurrection qui était venue, qui était les émeutes entre guillemets, des banlieues de 2005, qu'on qualifie d'émeute précisément pour leur ôter tout caractère politique. C'est une espèce d'éruption de violence informe, chaotique, dont il n'y a rien à tirer et qui n'est offerte qu'à la répression. Non, c'était un soulèvement qui était fondamentalement politique dans ses ressorts. Et donc ça, c'est aussi un bloc de la société française qui ne veut plus, selon l'adage léniniste, et qu'il va falloir agglomérer à cette reformation d'une gauche mouvementiste dont on sait en tout cas pour sûr que son action ne passera absolument pas par les institutions politiques établies. Ça, c'est bel et bien certain. C'est la seule chose dont on puisse être certain d'ailleurs.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Rien à ajouter, aucun de vous deux. Voilà. Merci d'être passé nous voir à votre prochaine avant-première qui est à Nantes, c'est ça ?
Ce soir.
À Nantes ce soir. Merci de nous avoir suivis. Donc ben voilà, si vous avez vu l'émission avant d'aller voir le film, vous verrez le film après. Vous pouvez aussi vous garder. Ben, c'est idiot de dire ça parce que l'émission est terminée. Mais bref, c'était aussi une émission. C'est une émission que vous pouvez aussi voir évidemment après avoir vu le film. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine.